Seigneur notre Dieu, nous voulons mieux comprendre de quelle manière tu communiques avec nous. Peut-être que nous ne comprenons pas toujours très bien de quelle manière tu le fais. Nous savons que c'est par ta parole. C'est un miracle extraordinaire que cette parole, nous puissions la lire en toute tranquillité aujourd'hui. Nous ne connaissons pas tout le mystère de l'inspiration, mais nous voulons essayer de mieux le comprendre ce matin pour mieux apprécier ta volonté de nous envoyer des lettres d'amour encore aujourd'hui pour façonner nos cœurs, façonner nos vies et nous préparer pour ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes convaincus que votre cœur et le mien ressemblent à celui-là. C'est un cœur avec des clous. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est méchant, il est tortueux par-dessus tout. Et lorsque le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, eh bien, il a un réflexe par rapport à l'Évangile, par rapport à la parole de Dieu, c'est d'avoir des préjugés. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux Saintes Écritures. Vous savez, on vit dans un monde où tout ce qui est autorité a été miné par les scandales. Les politiciens accumulent les scandales. Les gens qui occupent des postes au niveau de la justice sont poursuivis parce qu'ils ont menti. Les pasteurs même sont pris dans la tourmente des scandales, où les prêtres, personne n'est à l'abri des scandales aujourd'hui, et ce sont des personnes d'autorité qui voudraient être reconnues dignes de confiance. Alors bien sûr, lorsque un pasteur, lorsque vous présentez à quelqu'un l'Évangile et que vous voulez partager l'Évangile avec quelqu'un, qu'est-ce que les gens disent? Quel est le premier réflexe de l'homme dont le cœur est tortueux, méchant et incrédule par-dessus tout? Il dit, ce ne sont que des paroles d'hommes. Ce ne sont que des hommes qui ont écrit. Comment pouvons-nous faire confiance dans les hommes? Puisque lorsqu'il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et lorsqu'on se connaît soi-même et qu'on sait qu'on est très, parfois, indigne dans notre manière de vivre, on se dit, est-ce que ceux qui ont écrit les évangiles ont fait un bon travail? Lorsque moi je transmets une communication, est-ce que je la transmets correctement, fidèlement? Est-ce que les hommes de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament avaient la capacité de transmettre fidèlement le message divin? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous voulons regarder un passage dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 22 à 25, pour commencer. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Et je pense que vous avez sûrement aussi déjà souligné ce passage-là, où l'apôtre Pierre est en train de dire ce que la parole de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un dont le cœur est révolté, dont le cœur est impur, dont le cœur est incrédule, mais qui a donné une chance à la parole de Dieu de pénétrer à dose homéopathique dans sa vie. L'apôtre Pierre dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Lorsque les enfants à l'école plantent une semence de fleurs, qu'est-ce qui se passe avec cette semence? Elle pourrit, mais elle donne finalement un fruit. Elle donne quelque chose. La parole de Dieu, elle est présentée comme étant non pas corruptible, mais incorruptible. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre dans notre vie, lorsqu'on lui donne accès à notre cœur, eh bien, elle accomplit une œuvre incorruptible, une œuvre à petite dose, à dose homéopathique, j'allais dire, pour nous régénérer, pour nous transformer, comme le disait ce texte-là. Le deuxième texte, qui se trouve un petit peu plus loin, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, vous le connaissez sans doute aussi, vous l'avez peut-être aussi souligné lorsque vous avez fait votre première étude de la Bible. Pour certains, ça fait plus longtemps que pour d'autres. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est dit, à la question que les gens, et à l'argument que les gens présentent, mais ce ne sont que des hommes qui ont écrit les évangiles. Comment faire confiance dans ces 66 livres? Vous devez pouvoir répondre à un cœur qui a quand même une certaine ouverture, qui n'est pas prêt à dire tout de suite, je ne veux rien savoir. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est, vous voyez le lire avec moi, poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein? Dieu a employé des hommes, mais il a protégé la communication à travers les hommes par le Saint-Esprit qui allait garder, qui allait veiller à ce que le message qui serait transmis serait le plus fidèle possible à ce qu'il avait à dire. Ce matin, quand Samuel est venu ici en avant, il m'a demandé de la part de Léo Marc, quel est le message de la prédication ce matin? Et je lui ai dit ici en avant, et il est allé tout de suite le dire à Léo Marc, qu'il a noté sur son CD. Parce que, comme vous le savez, nos prédications sont enregistrées, et vous pouvez aller les retrouver sur le site Léo Marc Fauché. OK? Mais s'il y avait eu plusieurs enfants, est-ce que vous pensez que le message serait arrivé de la même manière au bout? Vous connaissez l'histoire de Pierre qui dit à Paul, Paul qui dit à Jean, Jean qui dit à Pierre, et puis à la fin, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait dit au début, qui arrive à destination. Bien, dans la parole de Dieu, Dieu a veillé à ce que ceux qui ont écrit aient écrit fidèlement ce qu'il voulait qu'il nous communique. Et c'est le principe et le phénomène de l'inspiration. Dieu révèle sa volonté à travers les songes, à travers les visions, et ensuite les hommes communiquent le message qu'ils ont reçu en l'écrivant, en le transmettant sur une peau de chèvre, sur une poterie, sur une pierre, parce qu'au début on n'avait pas des feuilles comme on les a aujourd'hui dans notre Bible. Et cette citation est très très importante. Ce matin je demande un petit peu votre attention plus particulière, je vous demande un peu plus de concentration. Regardez, dans un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il est dit la chose suivante. La nature de l'inspiration est un élément décisif dans le débat concernant Ellen White. On a déjà parlé d'Ellen White, les critiques concernant Ellen White, mais vous allez voir que les critiques contre Ellen White, par rapport à ce qu'elle a écrit, les nombreux livres qu'elle a composés sous la direction du Saint-Esprit, sont les mêmes attaques qui vont contre la Bible. La nature de l'inspiration est un élément décisif dans le débat concernant Ellen White. Tous les détracteurs, ceux qui sont contre et ceux qui sont pour de son ministère prophétique, présupposent avec connaissance ou non une certaine vue de la manière dont l'inspiration fonctionne. Si vous ne saisissez pas comment l'inspiration fonctionne, vous pouvez avoir de gros problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre de quelle manière l'inspiration fonctionne, de quelle manière Dieu a communiqué le message qui se trouve dans sa parole. Et la citation continue. Si cette vue est trop rigide ou trop élastique, Il y a de bonnes chances que dans les deux cas, ceux qui tiennent à ces deux façons de voir comprendront mal, mineront ou même rejetteront les écrits d'Ellen White. Mais je poursuis, et il en est de même avec la Bible. Si vous avez une compréhension trop élastique de l'inspiration, vous allez dire, ben, ce sont les hommes qui ont écrit, je ne peux pas faire confiance dans les hommes. S'il y a des difficultés devant lesquelles vous vous retrouvez dans la Bible, vous allez dire, ben, si c'est comme ça, là, qui c'est qui me dit qu'il n'y a pas d'autres difficultés ailleurs? Alors, est-ce que c'est inspiré? Il y a trop d'hommes, il y a trop, j'allais pas dire d'hommerie, mais l'homme a une trop grande place dans le processus d'inspiration. Mais si je crois que l'inspiration est tellement dictée par Dieu mot à mot et que je retrouve quelques difficultés, je vais me dire, ça ne marche plus. Si ça vient de Dieu, comment ça se fait qu'il y a telle problématique? Alors, il en est de même avec la Bible. Une manière incorrecte de comprendre l'inspiration biblique des prophètes peut facilement voiler le message, et plus que voiler le message, mais nous amener à peut-être même perdre la foi, à prendre le champ, à se dire, si c'est comme ça, j'abandonne. Donc, on est sur un terrain assez délicat, et c'est la raison pour laquelle je vous demande toute votre attention. Et c'est très important aussi bien pour les jeunes que les moins jeunes. Et le livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un livre vraiment que vous devriez posséder pour bien saisir le message de ce matin et aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Vous savez que dans le monde chrétien, on parle de l'infaillibilité papale. Dans l'Église catholique, on considère que le pape est infaillible. Et les protestants, ainsi que les adventistes, parce qu'on fait partie du grand mouvement protestant, les protestants, bien sûr, pour réfuter l'infaillibilité papale, ont élevé une autre infaillibilité, c'est l'infaillibilité biblique. Et parfois, on dit que les protestants, leur pape, c'est la Bible. Tandis que chez les catholiques, c'est le pape et la tradition qui sont infaillibles. Et pour contrer l'infaillibilité papale, les protestants ont élevé la notion, le dogme de l'infaillibilité biblique. Est-ce que la Bible est infaillible? Nous allons voir ça ensemble ce matin et vous allez découvrir des choses intéressantes. C'est Pie IX, pape en 1846, qui a énoncé, vous voyez que c'est quand même assez récent, 1846, c'est après 1844, la grande déception. C'est quand même assez récent par rapport aux apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui ont déclaré que la Bible ou que la tradition était infaillible ou que le pape était infaillible. C'est donc ce pape-là qui a déclaré qu'il était infaillible. Et les protestants ont effectivement voulu contrer cette attaque en disant non, ce n'est pas le pape qui est infaillible, ce n'est pas la tradition qui est infaillible, c'est la Bible qui est infaillible. Qu'en est-il vraiment? Alors, peut-être que vous ne connaissez pas la figure de cet homme-là. Il s'appelle M. Hans Küng. C'est un des plus grands théologiens catholiques qui a étudié avec le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, n'est-ce pas, en Allemagne. Ils viennent tous les deux d'Allemagne. Lui, il vient de la Suisse, par exemple. Et M. Küng a déclaré, à un moment donné, que l'Église catholique et le pape n'étaient pas infaillibles. Dans les rangs de l'Église, il y a des hommes et des femmes qui ont contesté la notion, le dogme de l'infaillibilité papale. Bien sûr, il a eu à supporter les conséquences de cela. Il est toujours théologien, mais il a été certainement remis en question et déclassé. La Bible est-elle infaillible? Alors, voilà quelques notions qu'il faut comprendre. Ellen White disait dans un livre qui s'intitule « Conseil aux écrivains », « Dieu et le ciel seul sont infaillibles. » Comment pouvait-il affirmer une chose pareille? Parce que, comme vous allez le comprendre, nous affirmons aussi que la Bible est infaillible dans la plupart du temps. Pourquoi est-ce qu'elle dit la chose suivante? Parce qu'à son époque, il y a des hommes, comme le président de la Conférence générale de l'époque, M. George Butler, qui affirmait que les témoignages de l'Église étaient infaillibles. Ellen White était infaillible. Ellen White disait tout le temps, « Dieu seul et le ciel sont infaillibles. » Ne dites jamais que les témoignages pour l'Église sont infaillibles. Ne dites jamais que la tragédie des siècles ou prophètes et rois sont des livres infaillibles. Dieu seul est infaillible. Quand quelqu'un voulait affirmer que ce que l'Église avait présenté comme doctrine était intouchable et infaillible, elle disait « Dieu seul est infaillible ». Et vous savez que dans l'Église adventiste, on parle beaucoup, et on parle encore aujourd'hui, de la vérité présente. C'est quoi la vérité présente? C'est une vérité qui est valable pour aujourd'hui, qui n'était pas valable ou comprise plus tard. On ne va pas regarder le texte, mais le texte nous parle de la vérité présente. Et comme notre compréhension de la vérité peut évoluer, là on ne parle pas de l'évolution, mais de la compréhension renouvelée de la parole de Dieu, parce qu'on la saisit mieux un peu plus tard, parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a fait une étude plus approfondie d'un sujet, on ne peut jamais dire qu'un écrit ou qu'une doctrine est infaillible. Dieu seul et le ciel sont infaillibles. Mais comme la vérité peut progresser, eh bien, il est bon de ne rien couler dans le béton, comme on pourrait le dire. Alors, Ellen White dit ailleurs la chose suivante, et ça ressemble un petit peu, pour ceux qui ont acheté le livre « Lire Ellen White », elle dit au début, il ne faut pas manger d'œufs, puis un peu plus loin, elle dit, il faut manger des œufs. Alors, cette citation pourrait sembler contradictoire. La Bible seule doit être notre credo, notre lien. L'homme est faillible, seule la parole de Dieu est infaillible. Il est certain que la parole de Dieu est infaillible dans le sens qu'elle est la révélation de Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous aider à comprendre le plan de Dieu. Mais il y a des choses qu'on peut mieux comprendre. Et si on décrète que c'est ça la vérité et que tout à coup quelqu'un trouve quelque chose de plus, eh bien on est mal pris. C'est la raison pour laquelle même dans l'Église adventiste, le livre « Les 27 doctrines ou 28 doctrines fondamentales », ce n'est pas un credo qui est coulé dans le béton, mais dans l'introduction, il est dit, ce sont des vérités qui peuvent être réexaminées et votées lors d'une session de la conférence générale. Alors, j'avance un tout petit peu. Maintenant, ça, c'est une image du Coran. Vous savez que les musulmans croient que le Coran est descendu du ciel sans intervention humaine. Et moi, j'ai donné à un moment donné des études bibliques à une dame qui a refusé de continuer d'étudier la Bible parce qu'elle a dit, regardez, le Coran a été donné par Allah directement aux hommes, par le prophète Mohammed, mais la Bible a été écrite par des hommes, et quand je compare la Bible ou certains passages au niveau des généalogies, au niveau des nombres, etc., je retrouve quelques divergences, quelques difficultés. Alors moi, je suis plus rassuré quand on me dit que l'homme n'a absolument rien fait, il n'a absolument pas participé au processus de la communication divine, je préfère le Coran, parce que ça, c'est sûr que ça vient directement de Dieu, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que la Bible nous est tombée du ciel? Vous le savez, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Regardez ce qu'Ellen White dit, « La Bible ne nous a pas été donnée en un langage surhumain. » Surhumain, ça serait divin. Ce n'est pas les mots de Dieu, à part les 10 commandements que Dieu a écrits de son propre doigt. Pour atteindre l'homme, Jésus a revêtu l'humanité. La Bible a dû être donnée en langage humain. Or, tout ce qui est humain est imparfait. Un mot peut avoir plusieurs significations. On ne trouve pas toujours un mot distinct pour exprimer une idée. La Bible se propose un but essentiellement pratique. La Bible a pour but de nous préparer pour la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans 2 Timothée 3,16? C'est de nous préparer pour la vie éternelle. Les petits détails sont pas si importants que cela, parce que si on veut aller dans les petits détails, ceux qui sont très analytiques, ceux qui veulent aller en profondeur, ils vont trouver peut-être des petites difficultés qu'on peut résoudre assez facilement lorsqu'on va un peu plus loin dans la recherche, au lieu de s'arrêter là. Mais la servante du Seigneur nous rappelle que la Bible nous a été donnée, non pas en un langage surhumain, mais un langage d'homme. Jean l'apôtre, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, n'est-ce pas, il dit qu'il a écrit parce que Dieu lui a dit « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris à l'église de l'ange de Smyrne ou de Pergame ou d'Éphèse, etc. » Et Jean écrit dans ces mots et il va même introduire dans l'Apocalypse des éléments païens de littérature qui existait à son époque pour illustrer son propos par rapport à des choses qu'il a vues et qu'il a voulu maintenant illustrer à travers ce qu'il connaissait de la littérature présente. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Regardez ce concept très intéressant dans le débat de l'inspiration biblique dans l'Église adventiste. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais surtout sur l'auteur lui-même à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, il porte quoi? L'empreinte de... Quand Ésaïe écrit, il n'écrit pas comme Paul. Et Jean, quand il écrit, n'écrit pas comme Luc. Et quand Joël écrit, n'écrit pas comme le prophète Jonas. Donc, ils emploient leurs propres mots qui peuvent être altérés par leur humanité et leur manière de s'exprimer. Le roi Salomon employait certainement un langage plus, j'allais pas dire scientifique, mais plus élaboré qu'un berger, n'est-ce pas, comme un berger qui aurait pu écrire, je crois que c'est le livre de Joël. Joël était un berger. Okay. Alors, est-ce que la Bible a été transmise de cette manière-là? Dieu a pris un homme et puis qu'il soit bête, qu'il soit intelligent, qu'il soit un singe ou pas, il va lui donner de dicter mécaniquement le message qu'il a à lui transmettre. Vous savez bien que tout ce qu'on a déjà vu maintenant montre bien que Dieu n'a pas bypassé, comme on dit en français, vous comprenez l'expression bypassé, quand on fait un pontage, hein, on passe à côté. Dieu n'a pas passé à côté de l'intelligence humaine. Dieu a choisi d'employer l'homme avec sa connaissance, avec sa culture, avec son intelligence, avec sa spiritualité pour communiquer un message, non pas à la manière d'une machine à écrire, comme les médiums, comme les guides spirituels dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ils se mettent autour d'une table et la table commence à shaker, puis il y en a qui commence à écrire, il est complètement inconscient de ce qui se passe, mais il écrit sans son consentement quelque chose que les esprits, les guides lui auraient transmis pour ceux qui sont là dans la chambre et qui attendent un message du grand-père, de la grand-mère, etc. Donc ce n'est pas un message mécanique, mais c'est un message qui implique l'intelligence humaine. L'inspiration biblique implique l'inspiration et la communication humaine. Pour parler aux hommes, le Seigneur se sert d'un langage imparfait pour que les sens dégénérés, les perceptions émoussées, hein, ça c'est vous et moi, nos difficultés à comprendre, des concepts trop compliqués, trop élaborés, d'être terrestre puissent le comprendre. Il y a là une preuve de quoi? De condescendance. Dieu s'est mis à notre niveau comme quand le pasteur ou quand le professeur, il se met à côté des enfants, il se met à genoux ou il se met assis à côté des enfants à leur niveau, puis il se met à leur niveau avec des mots d'enfants pour que les enfants comprennent, plutôt que de lui parler avec des formules trop élaborées, trop compliquées. Dieu se met à notre niveau. Confier à des vases de terre, ce que nous sommes, hein, des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Ben, les vases de terre, c'est aussi les écrits, c'est les parchemins, c'est le matériel que Dieu a employé. Le croyant humble et obéissant, il contemple la gloire de la puissance divine pleine de grâce et de vérité. Et voyez, cette citation est intéressante, elle va être illustrée 2-3 secondes plus tard par quelques exemples bien précis. Ellen White disait, « J'ai vu que Dieu avait pris un soin tout particulier de la Bible. Hein, il a veillé à ce que la Bible soit protégée de la destruction, que la communication à travers les différents manuscrits, les copistes qui ont copié, il n'y a pas de photocopieuse Xerox à l'époque, hein, que les copistes qui ont recopié la Bible le fassent le plus fidèlement possible. Pourtant, cependant, alors qu'elle était peu répandue, certains savants ont modifié ça et là quelques mots, pensant rendre leur sens plus clair, alors qu'en réalité, ils confondaient ce qui était clair pour l'incliner vers leur propre vue, inspirée par la tradition. Mais j'ai vu que la parole de Dieu, comme un tout, constitue une chaîne parfaite, un passage expliquant l'autre révélé. Et j'allais ajouter que si on a une seule Bible, c'est bien, mais il vaut mieux en avoir plusieurs dans sa bibliothèque pour comparer les textes, parce qu'il y a des Bibles qui traduisent de manière un tout petit peu, comment devrais-je dire, il y a une expression que je ne trouve pas maintenant, ils traduisent en fonction de leur agenda, de leur façon de concevoir Dieu et sa parole. Alors, je viens avec des exemples. Quand vous lisez la Bible attentivement, je ne sais pas si vous l'avez fait attentivement, peut-être que vous êtes venu à la Bible en toute confiance. Vous avez cru que c'était divin, que c'était la parole de Dieu et qu'il ne pouvait pas y avoir de difficulté dans l'étude du texte. Mais vous savez que puisqu'il y avait de nombreux manuscrits dans le Nouveau Testament qui ne se ressemblent pas tous, ça veut dire qu'il y a des différences dans les manuscrits et dans les textes. C'est la raison pour laquelle les théologiens comparent les manuscrits pour arriver au résultat le plus fiable. Donc, s'il y a beaucoup de manuscrits, ça veut dire qu'il y a différentes réceptions de la communication. Si vous prenez les nombres dans la Bible, combien de gens ont traversé le désert? Il y en a qui vont dire 600 000, il y en a qui vont dire plusieurs millions. Et si on prend certains passages de l'Exode ou des Rois, on voit que les chiffres ne sont pas semblables. Pourquoi? Il faut trouver une raison. Si c'était dicté directement de Dieu, on aurait toujours les mêmes nombres, vous êtes d'accord? Mais si c'est l'homme qui écrit et qu'il y a des différences, ben il faut se dire, est-ce que c'est important qu'il y ait eu des petites différences ou parfois des grosses différences? Les généalogies dans la Bible ne sont pas toutes les mêmes. Elles ne se ressemblent pas. Alors, si c'était inspiré verbalement, si Dieu avait dicté mot à mot les généalogies, est-ce qu'il pourrait y avoir une différence entre les généalogies? Bien sûr que non. Dans les récits aussi, vous savez que dans les évangiles, il y a quelques différences. Et là, je vous donne un exemple facile à comprendre qui n'a rien à voir avec le texte de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, qui est en hébreu ou en grec, mais vous savez que la traduction du monde nouveau, c'est la traduction privilégiée des témoins de Jéhovah. Eux, ils ont traduit les textes de la Bible parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. Ils ont écrit la Bible pour lutter contre la divinité de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir de Trinité. Okay? Si vous prenez une Bible en anglais, la New Revised Standard Version que vous n'avez pas, on a enlevé tout dans les textes, le masculin et le féminin. Parce que Dieu n'est plus masculin, parce que les femmes n'aiment pas ça, que Dieu soit le pater, hein, le père. Alors on a mis que Dieu était parfois au féminin, ou parfois il était neutre. Et il y a des traductions où il n'y a plus le un ou une, on ne parle plus d'une femme ou d'un homme, mais on parle des gens en général. Une traduction, le bras droit de Dieu est traduit par le bras puissant de Dieu, parce qu'on ne veut pas parler du bras droit de Dieu. Ça donne un peu plus d'importance à quelque chose qu'à quelque chose d'autre. Donc, vous voyez, dans les traductions modernes, dans les traductions en français, en anglais, en italien, en allemand, etc., selon la perception que les gens veulent donner, ils traduisent. C'est pour ça qu'il faut connaître plusieurs Bibles, avoir plusieurs Bibles chez soi à la maison pour comparer les différentes traductions, afin de ne pas se laisser aiguiller dans la mauvaise direction. C'est juste quelques exemples que je voulais vous donner, qui ne sont pas menaçants, vous êtes d'accord, parce que ce n'est pas dans le texte original. Ça, c'est les hommes qui ont traduit. Si vous prenez la Louis II, savez-vous que dans les passages où il est dit que les diacres ne doivent pas consommer, ne doivent pas être adonnés au vin, dans le texte original, c'est écrit les diacres ne doivent pas boire de vin du tout. Mais Louis II a traduit, ils ne doivent pas être adonnés au vin. C'est-à-dire, ils peuvent en prendre, mais ils ne doivent pas en prendre trop. Ça a été traduit de cette manière-là parce que on vit dans un pays, en France, où les vignobles sont abondants et qu'on ne pouvait pas interdire aux gens, littéralement, de ne plus boire de vin. Vous voyez, il y a des petites modifications qui sont là et qu'il faut parfois connaître et qui sont utiles à connaître. Si la Bible est un livre pour les gens, sa première tâche alors doit être de satisfaire à leurs besoins. Ainsi donc, l'Écriture est moins un traité théorique, un code de loi ou un rapport scientifique. Hein, le récit de la Genèse, ce n'est pas un récit scientifique. C'est un récit authentique qui nous dit que Dieu a créé en 6 jours le ciel, la terre et les étapes nous sont connues. C'est authentique, mais il n'a pas donné les formules scientifiques. Hein, on n'y comprendrait rien si ça avait été le cas. Ainsi donc, l'Écriture est moins un traité théorique, un code de loi ou un rapport scientifique, mais plutôt une lettre adressée à la famille humaine. C'est la lettre de Dieu à sa famille. De la même manière que la prière, c'est l'ouverture du cœur à un ami, n'est-ce pas, communiqué par le Saint-Esprit par le biais d'amis humains. J'ai manqué une phrase, je crois. Mais vous comprenez que l'Écriture, c'est la lettre d'un ami. C'est la lettre de Dieu à des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de Dieu, comme lorsque nous mettons à l'écoute de Dieu, lorsque nous prions. Alors, je vous pose ces questions. Est-il possible pour un ami de faire une erreur et malgré tout de conserver notre confiance? S'il y a quelque chose qui vous trouble dans une lettre, si votre ami fait des fautes d'orthographe, est-ce que vous ne croyez pas que votre ami vous aime quand même, que sa volonté c'est de vous aider? Alors, vous avez compris l'essentiel. La Bible nous a été donnée pour nous conduire à vivre en harmonie avec le plan de Dieu. Mais s'il y a des petites choses que je ne comprends pas ou qui me gênent, comme on les a vues, ou peut-être d'autres, eh bien, je ne vais pas rejeter l'Évangile à cause de ça, parce que je fais confiance en Dieu. Si nous exigeons une perfection absolue de nos amis, combien d'amis conserverions-nous? On n'en aurait plus beaucoup, hein? Pourrait-on faire un parallèle avec l'Écriture lorsqu'on rencontre de petites difficultés, lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Car, alors ce passage est important, parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu est suffisante pour nous préparer à la vie éternelle. Mais savez-vous où est la faille, parfois, lorsqu'il est question de partager la parole de Dieu? Elle se trouve chez qui? Chez vous. Et moi, si je falsifie la parole de Dieu inconsciemment, si je présente une doctrine biblique tout croche, si je n'ai pas une bonne compréhension du plan du salut et que j'insiste plus sur la colère de Dieu que sur l'amour de Dieu, qu'est-ce que je vais passer comme message? Que Dieu est un Dieu vengeur, alors que il faut trouver un bon équilibre, et ce qui n'est pas toujours évident. Et les conférences franco-nettes avec Bernard Sauvagnat et José Lisier ont été un excellent moyen de nous faire comprendre cet équilibre-là. Car nous, disait l'apôtre Paul, j'espère que nous pourrons un jour dire nous-mêmes, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Frères et sœurs, on peut se poser la question, est-ce que vous étudiez suffisamment la parole de Dieu pour que lorsque vous la partagez avec quelqu'un, vous ne la falsifiez point, bien sûr pas volontairement, mais parce que vous ne la maîtrisez pas, cette parole, vous ne la connaissez pas suffisamment, ou que vous la connaissez théoriquement, mais que votre relation avec Jésus-Christ n'est pas à la hauteur de la théorie que vous connaissez. Et encore une fois, il faut connaître le mieux possible la parole de Dieu, mais si on connaît très bien la parole de Dieu, mais qu'on n'a pas une relation personnelle avec Jésus, on passera aussi à côté et on va induire des gens en erreur ou on va faire en sorte que les gens vont dire « ce ne sont que des hypocrites ». Ils disent, mais ils ne font pas. Vous me permettez de continuer encore un petit moment? C'est un petit peu plus élaboré ce matin, mais je pense que ça vaut la peine. Alors, vous savez que Dieu se manifeste à travers la révélation générale. Savez-vous, c'est quoi la révélation générale de Dieu? C'est la nature. Et il y a la révélation spécifique, c'est la parole de Dieu. J'illustre ça dans le psaume 19. On ne va pas le lire. Vous allez trouver qu'il est dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Et puis ensuite, David dit que la loi de Dieu est une révélation de Dieu pour les hommes. La nature plus la Bible ensemble nous permettent de comprendre la volonté de Dieu pour nous et pour l'humanité. Et c'est important de se souvenir que, en tant que chrétiens, protestants, adventistes, nous affirmons que c'est l'Écriture et l'Écriture seulement qui est infaillible et digne de notre confiance absolue. Ce n'est pas ce que les hommes ont écrit, que ce que Ellen White a écrit, ce qu'un tel a écrit qui est infaillible, c'est ce que Dieu nous a donné dans ce livre. On ne peut pas tester la Bible par les écrits d'Ellen White. Ellen White, on lui avait demandé à un moment donné de donner son opinion sur la loi dans l'Épître aux Galates. Peut-être ceux qui sont moins versés dans cette bataille théologique ne comprennent pas de quoi je veux dire. Et Ellen White avait reçu une révélation de Dieu là-dessus. On lui dit, Ellen White, dites-nous, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à l'Épître aux Galates? Savez-vous qu'est-ce qu'Ellen White a dit? Frères et sœurs, allez à la Bible et étudiez ça pour vous. Au lieu de s'imposer comme une autorité finale concernant une doctrine, concernant un enseignement important dans la suite des choses. Alors, Dieu communique par des théophanies. Théos, ça veut dire Dieu. C'est des apparitions, hein, c'est ce qui est apparu à Moïse dans le désert lorsque le buisson ardent s'est mis à se mettre en flamme. Comme on l'a vu avec les enfants, des visions, des rêves, des anges, lorsqu'on jetait le sort, l'urim et le thummim, oui ou non, la petite lumière qui s'allumait, des paroles divines, Dieu parle. Et parfois, Ellen White dit, Dieu m'a dit, et ce que j'ai mis entre guillemets, c'est ce que Dieu m'a textuellement dit d'écrire. Donc, ce sont des paroles divines par des miracles et des signes et par la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles, sa mort, sa résurrection, son ascension. Est-ce que vous êtes toujours là? Je voudrais vous avoir jusqu'à la fin. Ce n'est pas souvent qu'on fait un exposé, j'allais dire, un peu plus théologique que celui-là, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment bien saisir ça et l'approfondir, bien sûr, parce que peut-être c'est la première fois. L'inspiration versus la révélation. Parfois, vous savez, on dit, ce matin, pasteur, vous m'avez inspiré. Ou, lorsque j'ai lu la Bible cette semaine, ça m'a inspiré. Savez-vous que c'est une erreur de dire cette chose-là, même si on comprend ce que vous voulez dire, mais on devrait dire, ça m'a illuminé. Vous ne serez pas des Illuminati, mais quand vous direz, ça m'a illuminé, vous allez employer le terme exact, le Saint-Esprit vous a éclairé, ça vous a illuminé. Mais si vous dites, j'ai été inspiré, alors on pourrait dire que vous prenez pour Paul, ou pour Jacques, ou pour Jean, ou pour Ésaïe, ou pour Jérémie. Eux avaient reçu l'inspiration de Dieu. Dieu s'est manifesté à eux de manière spéciale, mais eux, ils n'ont pas été inspirés. Ils n'ont pas été illuminés, ils ont été inspirés. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Lorsque un homme de Dieu écrit, il compose, il fait une rédaction et il peut être assisté. L'inspiration biblique peut se manifester à travers la composition, bien sûr, à travers la rédaction et à travers l'assistance de quelqu'un qui pourrait nous aider. Je prends un exemple. Luc 1, 1 à 4. Vous allez me dire, l'inspiration, mais là vous êtes un peu plus au clair maintenant, c'est lorsque un homme reçoit de Dieu un message par une vision, par un songe, par un rêve, et il le communique directement avec les mots de Dieu. Mais vous avez compris que ce n'est pas nécessairement toujours de cette manière que cela se passe. Dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4, c'est un passage très important que vous connaissez, qui a une importance plus grande que vous pouvez même l'imaginer. Il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements. Les événements de qui ? De la vie de Jésus, qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins. Hein, il y a des gens qui ont transmis ce qu'ils ont vu. Et ceux qui ont reçu la transmission de ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus des hommes et des femmes, au verset 3, qui, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Qu'est-ce que Luc a fait? Il a regardé tout ce qui existait sur la vie de Jésus, il a fait une rédaction, une composition, il a mis ensemble tout ce qu'il savait sur la vie de Jésus, et aidé par le Saint-Esprit, illuminé par le Saint-Esprit, il a décidé que l'évangile de Luc, ça serait ça. Est-ce qu'il a reçu le message directement de Dieu? Non. Il a utilisé des documents qui existaient à son époque et il les a mis ensemble pour en faire ce que nous avons entre les mains. L'Esprit de Dieu, dans la tragédie des siècles, vous voyez, Ellen White procède de la même manière lorsqu'elle a écrit la tragédie des siècles. L'Esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole et les scènes qui passent, et les scènes du passé et de l'avenir, m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande tragédie des siècles, de façon à montrer l'importance de la mêlée qui s'approche à grands pas. Dans cette intention, je me suis efforcé de choisir, hein, comme Luc, il a choisi des documents qui existaient. Lorsque vous lisez la tragédie des siècles, il y a les appendices, et il a pris des extraits historiques de Merle d'Aubigné, de livres d'histoire qui parlaient de la réforme, etc. Et il a pris différents éléments qui existaient, puis il a, sous l'inspiration de Dieu, avec l'illumination aussi du Saint-Esprit, choisi de composer certains chapitres de la tragédie des siècles, et même tous les chapitres, j'allais dire, avec le bagage qui était à sa disposition ou avec les révélations directes qu'elle avait reçues de Dieu, où Dieu lui a dit « écris ceci et cela », ça pouvait exister nulle part puisque c'était tout à fait original. Dans cette intention, je me suis efforcé de choisir et de grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief les grandes vérités qui ont été données au monde à différentes époques. Vous voyez que ça, c'est une femme enceinte. Est-ce qu'il y a différents degrés d'inspiration? Est-ce que Moïse est moins inspiré que Jean dans l'Apocalypse? Parce que la culture était moins élaborée, c'était la culture païenne de Babylone, pour Moïse ou l'Égypte, etc. Non, toute inspiration, hein, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est le même degré d'inspiration. Et je vous pose la petite question. Je sais qu'il y a une femme enceinte ici, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai oublié ton prénom maintenant, j'ai un blanc. Karine, est-ce que tu es à moitié enceinte ou à 100% enceinte? À 100% enceinte. Le premier jour, tu étais à 100% enceinte, et le dernier jour, tu seras à 100% enceinte aussi. Il y a peut-être différents degrés de la croissance du fœtus dans ton ventre, mais tu es toujours enceinte. La parole de Dieu, c'est toujours la même inspiration. Il n'y a pas des choses qui sont moins inspirées que d'autres. Elles sont toutes inspirées et conduites par qui? Par le? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Timothée, on l'a lu tout à l'heure. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu pour faire quoi? Pour instruire, pour convaincre, pour corriger et conduire l'homme à la justice de Dieu. Vous voyez, le but est essentiellement pratique. Et Dieu utilise la chaîne de communication dont on a déjà parlé, des hommes, pour nous révéler sa volonté. Hébreux 1, 1 à 3. On arrive à la fin. Hébreux 1, 1 à 3. Vous connaissez ce passage-là, sans doute aussi par cœur. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans Hébreux 1? Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de quoi? Plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Vous voyez, Dieu a utilisé toute une sorte de personnages, des femmes, des hommes, des enfants, des prophètes, des rois, des bergers, pour communiquer son message, et ça se termine, ça se culmine avec qui? Avec la personne de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, versets 1 à 3. Vous voulez trouver ce texte sans doute aussi avec moi. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné Dieu a donné à Jésus-Christ une révélation qu'il a donnée à ses serviteurs. Par qui? Par l'envoi de son ange. Hein? Et l'ange l'a donné à Jean. Vous voyez, Dieu utilise différentes personnes. Il ne le fait pas directement. Il n'infuse pas sa science dans la tête d'un homme sans passer par lui. Mais il choisit de passer par le canal de l'humanité. Nous avons dans la Bible le conseil parfait de Dieu. Lorsqu'on met en pratique ces enseignements, ils rendront tout homme responsable dans tous les domaines de la vie. Est-ce que vous aimez ça? Dans tous les domaines de la vie. C'est la voix de Dieu parlant chaque jour à chaque âme. Est-ce que vous avez entendu Dieu vous parler ce matin? Si vous avez pris du temps pour lire la Bible, pour prier, vous avez entendu Dieu vous parler à travers la Bible. Si vous n'avez pas ouvert la Bible ce matin, vous ne pouvez pas dire que Dieu vous a parlé. Heureusement que vous a peut-être parlé maintenant à travers l'école du sabbat, à travers le sermon, à travers différentes choses qui se sont passées, mais la manière privilégiée de Dieu, c'est de le faire à travers sa parole. Jésus est celui que nous devons chercher dans la parole. Vous connaissez Jean 5, verset 39? Est-ce que vous connaissez ce passage-là? Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et malheureusement, il devait dire aux pharisiens, mais vous ne voulez pas venir à moi. Lorsque nous étudions les Écritures, lorsque nous les considérons avec respect et attention, qui allons-nous rencontrer? Qui voulons-nous rencontrer? C'est la personne de Jésus-Christ. Alors, est-ce que, en terminant ce matin, vous avez été inspiré ou illuminé? Vous avez très bien compris la leçon. Vous êtes tous illuminés. Et si vous poursuivez votre recherche, votre étude de la Bible, le Saint-Esprit va continuer de vous illuminer. Le cœur de l'homme méfiant, tortueux par-dessus tout, peut par la parole de Dieu devenir soumis et disposé à être transformé par la grâce. Son incrédulité est transformée en foi et confiance totale dans la Bible. Et j'aimerais que vous repreniez alors pour terminer le premier passage que nous avons lu ce matin, 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 25. 1 Pierre 1, 22 à 25. Serrez pas votre Bible tout de suite, on va le lire. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque votre cœur, il a été transformé, vous avez laissé la parole de Dieu, la semence de l'Évangile, pénétrer votre cœur comme une dose homéopathique, puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme de l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Elle demeure éternellement dans votre cœur et dans le mien si nous la gardons, comme disait l'apôtre, non pas l'apôtre Paul, mais comme le disait le roi David, « Je serre ta parole sur mon cœur pour ne point pécher contre toi. » Bien, nous voulons prier ensemble en terminant ce message de ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole sacrée que tu nous as confiée, qui a été attaquée, qui a été malmenée dans le passé, qui a été parfois très rarement disponible dans les foyers, dans les cœurs, qui avait le désir et l'aspiration de connaître ta volonté. Merci Seigneur, parce que dans nos maisons, nous pouvons avoir plusieurs traductions de la Bible. Nous avons le moyen de la télécharger sur nos iPods, nos MP3, nous pouvons la lire dans un livre qui a été traduit de manière à être un peu plus proche de nous parfois, dans une traduction moderne, la parole vivante ou la parole de vie. Merci Seigneur, parce que tout cela, c'est pour nous permettre de te découvrir, de mieux t'aimer, de mieux nous préparer pour le prochain retour de Jésus. Aide-nous Seigneur à apprécier ta parole qui est la vérité, car Seigneur, elle nous conduit à toi, elle nous transforme, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous glorifiera. Ta parole, Seigneur, merci. Au nom de Jésus.